Alors nous pouvons à présent ouvrir la discussion. Donc si des camarades veulent intervenir, il leur suffit de lever la main et des camarades avec des micros viendront les voir. Je rappelle simplement aux organisations qui voudraient intervenir qu'on leur demande de se limiter à une intervention par organisation et globalement des interventions assez concises de moins de 3 minutes si possible. Voilà.
Donc il y a la Cisjordanie. En fait, j'arrive pas à comprendre si c'est vraiment un État palestinien ou si finalement c'est un État israélien, comment dire, auquel on donne des droits aux Palestiniens. Mais c'est pas très clair dans ma tête si c'est vraiment un État palestinien. J'ai l'impression que non, en fait. Et en même temps, on me parle de colons. Alors je me dis, s'il y a des colons, bah si, c'est qu'ils sont dans un autre État que l'israélien. Mais c'est, voilà, si vous pouviez élaborer autour de ça, ça m'intéresse.
Merci. Alors, il y avait deux questions ou interventions à gauche, là-bas.
Oui, c'est simplement pour donner une précision sur les massacres de Sabra et Shatila en 1982 par les milices chrétiennes de Gemayel, donc au Liban, sous la surveillance, la complicité des troupes israéliennes qui occupaient Beyrouth. On a signalé 5000 morts, et il faut dire que parmi ces 5000 morts, beaucoup ont été massacrés, assassinés à l'arme blanche, au couteau, au coutelas. Donc c'est une précision importante, à mon avis. Et ça éclaire un peu... C'est une réponse qu'on peut donner, entre autres, à tous ceux qui prétendent qu'on est en face d'un conflit de civilisation opposant la civilisation judéo-chrétienne d'un côté et la barbarie de tous les, finalement, de tous les pauvres de l'autre côté.
Merci.
Bonjour, je parle pour la Ligue Trotskiste de France. La présentation était axée en partie, on n'a pas entendu le mot impérialisme français, mais en partie contre l'impérialisme à juste titre, comme le principal responsable des maux qui s'abattent sur les peuples du Proche-Orient. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement pour chasser l'impérialisme de la région? Que le prolétariat doit se passer outre ses divisions nationales et qu'il faut lever le drapeau de l'internationalisme? Que le seul moyen d'en finir avec les guerres permanentes et le sous-développement chronique est la révolution prolétarienne pour aboutir à une fédération socialiste du Moyen-Orient et du monde. C'est très bien de prôner la révolution prolétarienne, mais pour les révolutionnaires, toute la question est de savoir comment frayer la voie à la révolution. Maintenant, justement, il n'y a pas de révolution victorieuse. C'est la réaction qui triomphe. Donc, comment passer de la réaction à la révolution? La voie pour y parvenir, c'est de faire de la lutte pour l'émancipation nationale palestinienne le levier pour la révolution sociale. C'est ça qui est le noyau de la révolution permanente, trotskiste. Et je dois dire pour Marx aussi, c'était absolument central aux écrits de Marx qu'il faut rompre les travailleurs anglais avec le chauvinisme anti-irlandais pour unifier les luttes en Angleterre pour se battre pour la libération de l'Irlande contre l'ennemi en commun. Bon, mais alors est incapable de... Donc c'est le noyau de... Comme j'ai dit, il faut montrer aux travailleurs juifs israéliens que la libération palestine est la clé de leur propre libération. Mais alors est incapable de le faire quand elle considère que ce serait capituler devant le nationalisme. Et elle en vient de ce fait à renvoyer dos à dos tous les nationalismes bourgeois, et je cite votre journal de la région, en dépit de toutes les analyses sur la pression des Palestiniens. En refusant de mettre au centre de la stratégie prolétarienne la lutte pour l'émancipation nationale palestinienne, elle représente en fait un obstacle à la seule manière d'ouvrir la voie à la révolution socialiste dans la région. Et pour cette raison aussi, elle est incapable de poser la moindre tâche concrète pour les travailleurs ici en France. En dépit de vos différences, voici le point commun entre vous et Révolution Permanente. Vos positions capitulent aux directions révolutionnaires actuelles. En Palestine, en refusant la lutte pour la libération nationale, vous la laissez dans les mains de Hamas. Ici, votre ligne pour rendre impuissant face aux bureaucrates et aux mélenchonistes, les mêmes socio-impérialistes qui ont conduit à la défaite sur les retraites, qui refusent de défendre les jeunes de quartier contre la vindicte de l'État et
camarade,
qui condamnent le mouvement pro-palestinien.
Je vais te demander de conclure, s'il te plaît.
Je veux de la loyauté aux valeurs républicaines de l'impérialisme français.
Alors, il y avait une autre intervention ici.
Je peux rester assise. Oui, je voudrais lâcher le. Courtement dire au monsieur qui a parlé là pendant une heure et demie d'une manière extrêmement raisonnable et rationnelle du point de vue de l'histoire. Ce qui m'a un peu gênée finalement, c'est qu'il n'a jamais insisté sur les occasions manquées du rapprochement entre les Palestiniens et les Israéliens. Et je trouve qu'on est arrivé à un moment, disons de l'histoire, à un moment, une époque, un moment précis, où on arrive à une fin. Quelque chose se dessine d'une fin, avec cet échange d'ossades, d'otages, enfin ce qu'on voit dans l'actualité entre les deux belligérants, si vous voulez, le nommément dit le Hamas et l'État israélien, malheureusement représenté par Netanyahou. Bon, donc je trouve que les occasions manquées dans votre discours, monsieur, c'est dommage de ne pas les souligner, parce qu'on en est là aujourd'hui à une occasion qu'il ne faut pas manquer, d'une fin qui est très, très facile à comprendre, ou facile à ressentir plutôt, dans ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde est au bout de la fatigue de cette épouvantable tuerie entre les hommes en Israël et à Gaza.
Merci.
Je veux ajouter Vas-y. Quelque chose encore. Il y a quelque chose que jamais n'est mentionné dans l'histoire de la fondation de l'État d'Israël. C'est le concept même d'État qui est en cause. Et moi, je suis psychanalyste. Je parle à la place un peu de Freud, puisque Freud a écrit une lettre en réponse à une sollicitation des sionistes militants en 1930. Il a refusé, et c'est écrit, enfin c'est facile à trouver cette lettre de Freud, qui est quand même un esprit universellement connu et répandu dans les consciences.
Il va falloir qu'on passe aux réponses.
Pour dire que il ne croyait pas que la solution d'un État favoriserait pour les Juifs un quelconque bien-être. Il a mis en cause l'État, le concept même d'État, pour cette histoire des Juifs.
Merci, voilà. On va passer aux réponses, sauf s'il y a encore une question, peut-être, on a le temps. Oui, il y a une dernière intervention là-bas.
Ah oui, d'accord. Bonsoir. Juste une question de approfondir le rapport qu'il y a entre le Hamas et l'Iran et l'État, si on peut dire que c'est un État, le Qatar. Ça veut dire que le Hamas a permis comme instrument en même temps de sortir l'Iran de l'étau dans lequel il était sur la révolte populaire contre son gouvernement, de la part du mouvement des femmes particulièrement, et le faire apparaître comme un grand défenseur de la cause palestinienne. La cause palestinienne, les femmes comprises, je ne suis pas sûr. Mais et voilà, je voulais souligner que c'est le moment de l'action du Hamas le 7 octobre se situe aussi dans ce contexte, ou, si vous pensez le contraire, ou au moins développer cet aspect.
Merci. Bien, je vais repasser la parole à Marc Rémy pour répondre à ces questions et interventions.
Alors, bon, bah, je vais prendre dans l'ordre. D'abord, pour ce qui est de la Cisjordanie, le camarade dit que c'est pas clair. C'est en effet pas clair. Mais c'est justement tout le problème. Enfin, c'est pas tout le problème, mais est-ce que la Cisjordanie, c'est-à-dire, enfin, est-ce que l'autorité palestinienne, qui a son territoire, c'est la Cisjordanie, enfin plus exactement une partie de la Cisjordanie, parce que si on s'en tient à ce qui avait été défini par les accords d'Oslo, il y a une zone qui est encore complètement sous la direction, enfin gérée par l'armée israélienne, c'est quand même 60% de la Cisjordanie. Donc le reste, c'est des zones qui sont censées être sous l'autorité palestinienne. Ça, c'était les accords d'Oslo. Mais les accords d'Oslo, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Du point de vue des gouvernements israéliens, les accords d'Oslo, bon, alors ils n'ont pas été jusqu'à renverser, réoccuper la Cisjordanie, parce que finalement cette situation où ils peuvent compter sur quand même aussi tout un petit appareil militaire qui est mis constitué par les Palestiniens eux-mêmes, bah ça leur va aussi quand même très bien. Bon, maintenant de là, alors est-ce que c'est un État ? Il y a un appareil militaire, les Israéliens disent c'est pas un État. Les Américains disent c'est pas un État. Aujourd'hui, les Palestiniens disent nous sommes un État. Et certains États, je crois qu'il me semble qu'il n'y a pas longtemps, la Suède voulait le reconnaître, enfin, il y a plusieurs États dans le monde qui reconnaissent l'autorité palestinienne comme un État. Ok, mais qu'est-ce que ça change ? Le véritable problème, c'est qu'on a un appareil, qui est un appareil d'État, qui est ce qu'il est, qui est plus ou moins, qui contrôle pas grand-chose, mais qui est sous, subordonné, sous dépendance israélienne, mais un véritable État, qui serait reconnu par tout le monde, comme Biden, par exemple, essaye de pousser là, dans ce sens-là, pour résoudre politiquement, pour sortir politiquement de la situation actuelle. Il dit qu'il faudrait remettre à l'ordre du jour deux États, c'est-à-dire reconnaître officiellement l'autorité palestinienne comme un État. Alors pas celle-là, une autorité palestinienne revitalisée, c'est-à-dire qui aurait de nouveau du crédit dans la population, parce que c'est quand même ça le problème, s'ils sont actuellement, ils sont complètement discrédités. Le Fatah, Mahmoud Abbas, enfin bon, voilà, donc il leur faudrait quelqu'un qui a plus de crédit et puis qui puisse dire, bon ben voilà, on est quand même un État, mais il faudrait que les Israéliens l'acceptent, ce qui est pour le moment pas le cas. Il faudrait qu'ils trouvent quelqu'un qui ait du crédit dans la population sur la base d'une politique qui laisse Israël, qui accepte cette situation de dépendance vis-à-vis d'Israël, etc., qui accepte cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. Simplement, au lieu d'appeler ça autorité palestinienne, on appellerait ça État palestinien. Eh bien, est-ce qu'ils vont trouver ? Ben, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'ils cherchent des gens qui, sur la base des illusions, ressuscitant, capables de ressusciter des illusions comme Arafat l'avait fait en 94, et qui, palestiniens, et qui, que les Palestiniens, au lieu de se révolter, au lieu de se battre, etc., eh bien, qu'ils espèrent que cet État puisse leur apporter quelque chose, et que ça se calme de cette façon-là. Une espèce de hochet pour calmer les Palestiniens. Bon, eh ben, ça, évidemment, c'est pas quelque chose que nous, on va défendre. Ils ont du mal à trouver. Ben oui, c'est pas étonnant qu'ils aient du mal à trouver, et on leur souhaite absolument pas de le trouver. Donc, le problème, oui, c'est compliqué, et tu as raison de rappeler qu'il y a des colons qui, eux, en plus, alors ils s'en foutent complètement des accords d'Oslo, ils n'ont jamais accepté, et eux, ils créent des colonies, et puis même s'ils n'ont pas le droit, ils les créent quand même, et puis même si c'est dans une zone, en théorie, contrôlée par l'autorité palestinienne, eh ben ils y vont et ils la créent, et ils attendent qu'on vienne les déménager. Et comme l'État israélien ne les déménage pas, mais petit à petit les reconnaît, ben ça leur donne raison et ils continuent. Donc, oui, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est mouvant, parce que c'est l'enjeu d'une lutte. Ce n'est pas des problèmes institutionnels. C'est qu'on a d'un côté une population palestinienne qui est en lutte pour faire reconnaître ses droits. Elle lutte, elle n'a jamais accepté cette situation. Il y a parfois des formes de révolte ouverte. Il y a d'autres fois où c'est seulement des militants. Mais en fait, depuis qu'il existe, à une époque, c'était à l'OLP qui militait les jeunes, les Palestiniens qui n'acceptaient pas cette situation. Et c'est pas pour rien qu'il y a ces organisations qui ont existé dans toute cette histoire du Moyen-Orient. Et bah oui, le peuple palestinien n'a jamais accepté Et il y a des périodes où ça a donné lieu à des révoltes. Et là-dedans, bah face à lui, il a un appareil d'État israélien qui cherche des moyens de lui faire accepter, soit par la violence, soit par la tromperie politique en utilisant certaines, certains Palestiniens, certains groupes palestiniens eux-mêmes. Et puis, en général, c'est les deux méthodes qu'ils utilisent, justement. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est tout le problème de ne pas trouver une... Il n'y a pas une solution, un État qui donnera une solution. Il n'y a pas de véritable État palestinien, oui. Mais même si demain, on le mettrait... Ça ne ressemblerait pas beaucoup à un État. Enfin, si, ça ressemblerait à un État, c'est-à-dire avec un appareil de répression. Mais ça ne donnerait pas plus de droits aux Palestiniens. Et les colons continueraient de faire ce qu'ils veulent. Point. Parce que pour eux, ça se joue à la mitraillette et pas autre chose. Alors... c'est ça la situation que vivent aujourd'hui beaucoup de les Palestiniens et la grande partie des populations d'Israël même. Alors, bon, et effectivement, ça donne des choses tout ce qu'il y a de plus barbare. Le camarade a rappelé Sabra et Shatila, comment ça s'est passé. Je ne sais pas là-dedans, quand on voit les images, quand on voit ce qui se passe actuellement à Gaza, évidemment, c'est pas au couteau, ils font ça autrement, mais c'est quand même un niveau de barbarie aussi, là, quand on bombarde jour et nuit, tout le temps, pendant des jours, un mois et demi, vous avez vu les images, cette ville complètement détruite, Gaza City, dont il reste rien. C'est la barbarie, c'est vraiment la barbarie. Et c'est quand même comme ça que l'État israélien, depuis 75 ans, alors on a l'impression qu'il y a une escalade à ce niveau-là, dans la barbarie, oui. Je vais tout de suite parler, je reviendrai, sur les occasions manquées. J'espérais, j'ai voulu, peut-être pas assez, clairement, mais parler des occasions manquées, il y en a eu quelques-unes. On peut dire qu'il y en a eu beaucoup, mais on peut dire qu'il y en a eu au moins au moment des révoltes où des peuples se sont battus. Bon, là, il y a des camps à choisir quand les Arabes, les populations palestiniennes se sont battues dans les années 30. Et il y avait un camp à choisir, les sionistes, ils ont choisi un camp. C'était une occasion où il y aurait pu y avoir une lutte commune. On ne parle pas simplement des choix individuels de militants qui se disent « ma vie, ma lutte, à moi ». Il y en a eu aussi parmi les sionistes. Il y en a eu pour il y en a eu pour être sioniste, mais cherchant à établir des rapports avec les Arabes, à ne pas vouloir que quand même ça se fasse contre eux. Mais comme ils étaient sionistes, au moment où justement il y avait les affrontements, ils se sont retrouvés, il y avait des sionistes de gauche. Il y en a encore finalement quand même en Israël même un peu qui restent, ils sont sionistes, ils veulent qu'il y ait un État juif, ils veulent etc. Et en même temps, ils aimeraient que ça ne se fasse pas contre les Israéliens. Il y a toujours eu ça parmi les populations juives qui ont été. Mais après, il faut aller jusqu'au bout de certains choix. Et quand il y a des luttes, il faut choisir un camp. Et ce qu'on peut dire, c'est que les organisations sionistes à chaque fois, le camp qu'elles ont choisi, c'était, suivant leur méthode, c'était le camp contre les Arabes, contre la révolte des Arabes, en faisant le jeu de l'impérialisme britannique dans les années 30. Et puis, ensuite, en 45, c'était plus dans cette période, c'était un jeu plus compliqué parce qu'ils ont eu à se battre aussi contre l'impérialisme britannique. Ils ont essayé de trouver d'autres soutiens. Là aussi, finalement, comme c'est eux qui sont entrés en lutte, ça aurait pu être une lutte différentes, qui auraient pu peut-être prendre, objectivement, ils avaient, l'impérialisme britannique était l'ennemi des Arabes et des Juifs, ils le montraient, sauf que des occasions manquées, il y en a eu comme ça, où des luttes communes auraient pu être menées, mais où c'est tout le problème des politiques nationalistes, des politiques sionistes qui ont été proposées aux Juifs d'un côté, et aux Arabes, aux Palestiniens, ensuite, ça a été dans les années, la période d'après, surtout, la politique de l'OLP, c'était les logiques nationalistes qui ont amené à ce que, c'était pas des luttes communes à mener, c'était des luttes où il s'agissait que chaque État, qui est un État, qui conquiert son propre appareil d'État et qui trouve le moyen de le faire reconnaître par l'impérialisme. Et ça, c'était une logique de lutte nationale et les peuples se sont retrouvés piégés là-dedans. Alors des occasions manquées, oui, j'ai essayé d'en montrer. Qui en a eu un certain nombre. Et puis, quand la camarade dit qu'aujourd'hui c'est la fin, bah, malheureusement, non, c'est pas la fin. C'est encore une étape de plus dans ce qu'il y a dans l'horreur, dans ce à quoi ça peut conduire, mais c'est pas du tout la fin. Parce que ça peut continuer comme ça, parce que du côté effectivement des Palestiniens qui ont vu, qui ont reçu, qui ont subi ces bombardements, qui ont vu leur famille détruite, etc. Et bah oui, ça peut être, il y en a qui peuvent se tourner vers le Hamas et en se disant bah finalement de toute façon voilà. Et puis du côté des Juifs, il peut y avoir la même réaction des Juifs israéliens. D'ailleurs, il y en a qui le font du côté des colons en ce moment, qui profitent de l'occasion pour donner un coup d'accélérateur à la colonisation, qui en ce moment le gouvernement israélien distribue des, enfin, surtout le ministre là, d'extrême droite, il distribue des armes. Voilà, il distribue des armes à qui veut bien en prendre. Et les colons et tous ces groupes d'extrême droite, eh ben, ils en prennent. Et c'est pour aller faire la peau de Palestiniens. C'est pour empêcher que dans les villes où ils vivent ensemble, ben, ce soit possible. Parce que eux, ils veulent un État juif où il n'y ait plus d'Arabes. Bon, voilà. Donc, on peut aller de plus en plus loin encore. On peut aller encore plus loin. Et donc, notre problème, c'est pas que si, ça ne se fera pas tout seul. Il faut qu'il y ait des militants qui proposent une autre politique aussi. On est convaincu qu'il y a les bases pour une autre politique. Il y a les bases parce que d'abord, il y a l'aspiration quand même, elle existe, elle est réelle, à une autre, à autre chose que ce que vivent depuis des dizaines d'années, à cet état de guerre, etc. Et puis, il y a des travailleurs qui vivent la même chose, qui vivent l'exploitation, qui peuvent comprendre ce que ça veut dire. Eux, ils cherchent, ils vont travailler, ils vont gagner leur vie. Leur problème, c'est pas forcément de se battre entre travailleurs. Et il y a une classe ouvrière et il peut y avoir une politique. Elle peut avoir une politique. C'est un souhait, c'est un vœu révolutionnaire peut-être, mais c'est aussi parce que de toute façon, s'il n'y a pas cette politique-là, s'il n'y a pas des militants pour proposer cette politique-là, s'il n'y a pas à un moment donné cette force-là sociale de la classe ouvrière qui se met en branle, qui propose autre chose, eh bien ces peuples ne peuvent pas sortir de cet engrenage de guerre, de vendetta, et dans lesquels les politiques nationalistes les ont enfermés et se proposent de continuer de les enfermer. Alors, oui, alors, la camarade de la LTF, si je ne me suis pas trompé de groupe, c'est bien la LTF, eh bien, nous a fait part de ses questions, de tout son questionnement sur... quelle serait la politique qu'il faudrait pour tout. Enfin bon, voilà, c'est des questions que je me pose, qu'on se pose tous. Alors après, elle nous dit je n'ai pas vu que vous proposiez concrètement quelque chose. Je pourrais lui retourner que je ne lui ai pas entendu non plus de sa part proposer concrètement quelque chose. Et je comprends, parce que pour proposer concrètement quelque chose, mais faut être présent là-bas. C'est faut avoir une politique à proposer. On parle de concret, si les mots ont un sens, hein. C'est-à-dire avec un programme, des objectifs précis, quelque chose de concret, pas du blabla, pas des phrases comme ça où on joue avec des formules. Voilà, si on parle d'une politique, eh ben nous, ce qu'on peut constater, c'est que pour le moment, il n'y a pas de parti révolutionnaire dans ces pays, il n'y en a pas non plus ici. C'est le problème général qui se pose en ce moment à la classe ouvrière, et que pour une politique concrète, eh bien, il faut que la classe ouvrière se batte, et il faut qu'elle ait un parti qui propose une politique. Alors, j'ai pas bien compris ce qu'elle nous reprochait, enfin j'ai pas tout compris, et en tout cas, par exemple, quand elle nous dit, cette camarade, qu'on a abandonné au Hamas la lutte nationale, là je vois vraiment pas. Enfin bon, en tout cas, s'il y a quelque chose, je crois, c'est qu'on considère pas du tout que le Hamas est susceptible de mener cette lutte nationale, enfin il la mène en tant que... appareil, comme groupe qui veut construire son propre appareil d'État, comme il l'a fait à Gaza, et comme c'est son objectif, comme l'OLP le voulait aussi, c'est l'objectif de tous ces groupes nationalistes, et c'est en définitive des groupes qui vont pas du tout résoudre, qui vont résoudre leur problème à eux, d'avoir leur propre pouvoir, leur propre appareil, mais résoudre le problème national des Palestiniens, ça, pas du tout. Parce que dans le cadre de l'impérialisme, c'est pas avec ces appareils d'État-là, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'intégrer dans l'ordre impérialiste. Et à partir de là, eh ben, ils résoudront pas du tout les problèmes nationaux des Palestiniens. Et nous, ce qu'on a à dire, justement...
Je
J'ai entendu la camarade employer le terme de révolution permanente. Je ne sais pas très bien ce qu'elle joue avec des étiquettes, mais si ce mot pour nous a un sens, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a que la classe ouvrière, les travailleurs, qui sont capables de résoudre à la fois les problèmes d'oppression nationale et à la fois leurs propres problèmes d'oppression sociale à laquelle ils ont à faire face. Et que c'est que par de cette façon-là, en menant sa lutte et en prenant la tête de la lutte des peuples opprimés, eh bien que les travailleurs peuvent et sont les seuls à pouvoir apporter une réponse à ces problèmes d'oppression nationale et d'oppression en général dans cette société aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas de réponse à apporter aux camarades sur le Hamas et l'Iran. Ils ont des liens, mais nous, on n'est pas des spécialistes et on n'est pas des diplomates et on n'est pas dans les coulisses. Comment ? Ça, c'est clair qu'ils ont des liens. Après, les effets que ça a eu en Iran même, le camarade dit qu'ils essayent d'utiliser la lutte des Palestiniens pour essayer de se refaire un peu... Peut-être, sûrement, tous les États arabes ont toujours fait ça depuis 75 ans. Mais après, est-ce que ça marche ou pas ? Alors là, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut dire, encore une fois, c'est que justement... Ce n'est pas ce qui a manqué dans l'histoire des Palestiniens, des groupes et des États qui ont exploité leur lutte. Mais justement, ce qu'on voit aujourd'hui, l'aboutissement, ce qu'on en voit aujourd'hui, ce n'est même pas un aboutissement, c'est aujourd'hui, on voit comment, dans quelle impasse, ça a conduit les Palestiniens et les Israéliens eux-mêmes, qu'ils soient juifs ou arabes, dans cette région. Et donc... Encore une fois, si on doit conclure sur quelque chose, c'est que malheureusement, tout ça, bon, encore une fois, on n'a pas beaucoup de moyens, la camarade parlait de politique concrète, on n'a pas de moyens d'influer sur ce qui se passe concrètement là-bas. Par contre, ce qu'on a, ce qui nous reste à nous en tant que militants, ce que font des militants, c'est faire de la politique. C'est de mettre en avant des perspectives politiques. C'est très général. Que la classe ouvrière, la camarade avait l'air de s'en moquer un peu. Oui, alors vous parlez de la révolution, c'est bien gentil. Bah oui, bah faut au moins en parler, parce que ça, on peut le faire. Qui en parle aujourd'hui ? Eh bien, si ce n'est des militants qui veulent que la classe ouvrière, elle apparaisse dans ces combats-là, y ait son drapeau, son programme, et que c'est la seule à pouvoir apporter une réponse. C'est pas parce qu'on dit ici que ça va pouvoir survenir dans les mois qui viennent, ni dans les années, on ne sait pas quand, ça dépend... Dans une faible mesure de nous, on ne sait pas, mais ce qu'on a à dire, c'est ça. Et il faut le faire entendre, qu'effectivement, ça nous a été reproché par certains groupes, et bien que les travailleurs, contre l'impérialisme, contre Netanyahou, contre le Hamas, ils ont une politique à opposer, c'est celle de la politique de lutte des travailleurs pour le pouvoir, c'est la politique des travailleurs du monde entier pour renverser l'impérialisme.